Le gouvernement belge va négocier la reprise par l'État de l'entreprise française Engie, en tout cas pour tout ce qui concerne son secteur de l'énergie nucléaire. On en parle ce matin avec Samuel Fourfari, professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Il répond lui aussi aux questions de Blaise van der Linden.
Samuel Fourfari, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, on l'a appris, Engie et l'État belge négocient la reprise complète des activités nucléaires du groupe en Belgique, incluant les centrales de Doel et Tihange, avec un accord attendu d'ici octobre 2026. Alors, j'aimerais vous poser une question relativement facile et relativement directe pour commencer, Samuel Fourfari. Pourquoi l'État belge veut-il récupérer son nucléaire?
Mais parce que on a compris que la France, pas seulement Engie, mais la France ne veut plus s'impliquer dans le nucléaire en Belgique. La situation en France est compliquée parce que Engie doit se concentrer sur son corps de métier. N'oubliez pas que Engie, c'était avant Gaz de France. Donc Engie s'occupe de centrales au gaz et de centrales renouvelables. Et l'autre pendant de la France, toutes les deux dépendant de M. Macron, parce que ce sont deux entreprises nationales avec l'État qui est actionnaire majoritaire. L'autre, c'est EDF. Et EDF est dans une situation économique désastreuse. La société a été nationalisée complètement par M. Macron parce qu'il craignait qu'elle ne fasse faillite. Et donc, ils ne sont pas en mesure d'aller s'occuper de nucléaire ailleurs. La situation française est vraiment catastrophique en matière d'énergie, et d'énergie nucléaire en particulier. Et donc, on est à 15 jours de l'anniversaire de la loi de sortie du nucléaire, de l'abolition de la loi sur la sortie du nucléaire. Elle a été adoptée le 15 mai 2025. Et en un an, moins 15 jours, il ne s'était rien passé, pratiquement. Bon, pour diverses raisons. D'abord, parce que Engie ne voulait rien entendre, et donc le gouvernement se trouvait face à un mastodonte qui ne voulait pas bouger. Peut-être aussi, le gouvernement n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation, je ne sais pas. Mais c'est certain que le premier coupable là-dedans, c'est la France. Et donc, il fallait sortir de cet imbroglio, et je crois que c'était la solution. Moi, je dis que toutes les solutions sont bonnes pourvu qu'on quitte la France. C'est aussi simple que ça. Vous avez dit une question directe, une réponse directe, c'est tout est bon pourvu qu'on sorte de la France.
Sous le précédent gouvernement belge, l'objectif était tout de même de sortir du nucléaire. Est-ce que c'est un échec aujourd'hui ce rachat de deux centrales qui sont les deux plus grosses centrales du pays?
Non, c'est pas un échec. L'échec, ça a été pendant 20 ans de faire croire qu'on allait se passer du nucléaire. C'est ça l'échec. Il faut comprendre aussi, Engie, malgré tout le mal que je viens de dire, que, vous savez, quand on se retrouve devant un gouvernement qui tergiverse pendant 20 ans, oui nucléaire, non nucléaire, on crée une loi, et puis on la modifie, et puis on dit non, on va changer. Pendant 20 ans, ça a duré ce cirque. Et je comprends que les Français disent, mais non, ça suffit, on ne croit plus ces petits comiques de Belges, hein, parce qu'on a vraiment été ridicules sur le nucléaire en Belgique. Maintenant, on a un gouvernement qui a enfin de la sagesse, ou plutôt qui a enfin le courage, parce qu'avant, les autres gouvernements avaient de la sagesse aussi. Ils savaient qu'il fallait revenir dans le nucléaire, mais ils n'osaient pas le faire. On a enfin un gouvernement qui ose dire la vérité et qu'il faut revenir dans le nucléaire. Et il faut sauver le nucléaire. On a deux grandes centrales en Belgique qui ont été la fierté du pays. Et puis, on a tout laissé se détruire à cause des écolos de tous les partis. Et donc, il fallait sauver la situation. Alors, insistons pour dire que la situation n'est toujours pas sauvée. Hein. Il s'agit de négociations. Le gouvernement belge va négocier avec Engie un prix de rachat de tout cela. Et donc, ça ne va pas être évident non plus. Parce que Engie ne va pas lâcher le morceau facilement et la Belgique a besoin du nucléaire, donc elle est un peu coincée. Ce n'est pas du tout évident. Vous savez, je ne cesse de le répéter à mes étudiants. Hein. Parce qu'on fait croire qu'on peut faire de n'importe quoi en énergie. Là, on fait n'importe quoi et puis c'est pas grave, on continuera. En énergie, les erreurs se payent pendant des décennies et ça coûte très cher. On a fait une erreur en 2023 de dire on va sortir du nucléaire. Ça coûte très cher et ce n'est pas fini. Parce que les erreurs, ça se paye cher. Et quelles sont les erreurs? Ce sont des erreurs idéologiques. Il n'y avait aucune raison d'arrêter des centrales qui fonctionnaient bien, qui étaient amorties, où il n'y avait aucun danger. C'est tout simplement les écolos qui ne voulaient plus de nucléaire. Pour avoir un gouvernement sans les socio-chrétiens flamands, M. Verhofstadt a accepté le diktat des nucléaires. Hein, si vous voulez, on peut en parler un peu plus, mais c'est ça qui s'est passé en 2003.
On va plutôt se concentrer sur l'actualité, si vous le voulez bien, Samuel Furfari. Vous le dites, hein, c'est une décision qui a coûté très cher, qui continue à coûter très cher. Bart De Wever, devant la Chambre cette semaine, lui a dit que le rachat du nucléaire belge d'Engie était un investissement qui rapportait. Comment est-ce qu'on doit comprendre cela? C'est parce que la Belgique va pouvoir exporter son énergie nucléaire?
Ben, tout d'abord, on va produire de l'électricité. Quand vous produisez de l'électricité, vous gagnez de l'argent. Hein. C'est pour ça que certains veulent construire des centrales, que ça éolienne au gaz, au charbon, au nucléaire, c'est la même chose. Quand on produit, on gagne. Et l'électricité est un produit incontournable de notre vie et de notre industrie, donc il y a un marché pour l'électricité. Et puis, on a besoin d'électricité de plus en plus. Si vous voulez développer l'intelligence artificielle, ben, ça ne va pas se faire sans électricité. Vous voulez développer les véhicules électriques, ça ne va pas se faire sans électricité. Et si vous voulez aussi électrifier tout dans votre maison, ben, il faut de l'électricité. Donc, c'est certain qu'on va aller vers un marché de l'électricité en croissance. Et donc, il faudra produire de l'électricité. Et la Belgique se dit, ben, après tout, on peut gagner de l'argent en faisant ça. Mmh. C'est pas le métier d'un gouvernement, et surtout d'un gouvernement de centre droit. Les libéraux n'ont pas pour vocation d'être producteurs d'électricité. Mais étant donné la catastrophe qui a été réalisée pendant 20 ans, ben, il faut bien trouver des solutions qui sont loin de l'idéologie. Et donc, je comprends qu'un Bart De Wever dise ben, la situation est tellement dramatique qu'il faut que le gouvernement rentre dans le jeu, même si ce n'est pas sa tasse de thé du point de vue idéologique.
Pour rebondir sur l'actualité chaude au Moyen-Orient, il y a la fermeture du détroit d'Ormuz et puis il y a eu également le conflit avec la Russie qui nous a privé de gaz. Est-ce que ça peut avoir un impact? Est-ce que ça a pu être une des réponses à cela ou c'est pas du tout lié?
C'est pas du tout lié et je voudrais que les auditeurs comprennent que lorsque vous entendez des gens qui vous disent que si on avait construit des éoliennes, on n'aurait pas eu la crise de Hormuz, ce sont tout simplement des menteurs ou des idiots. Les éoliennes, ça produit des électrons. À Hormuz, ce sont des molécules qui passent. C'est pas du tout la même chose. Les électrons, ils servent ici en Europe. À Hormuz, ça sert surtout pour l'Asie. Donc voilà deux éléments qui montrent qu'on parle à tort et à travers en faisant croire qu'on devait construire des éoliennes et qu'on n'aurait pas eu de crise à Hormuz. C'est exactement le contraire qui se passe. C'est exactement le contraire. Vous avez beau construire des éoliennes, on ne va pas se passer des molécules de pétrole et de gaz. C'est ça, pour ça qu'il y a une crise à Hormuz. Parce que le pétrole et le gaz sont incontournables. Incontournable pour la chimie, incontournable pour le transport, incontournable pour l'industrie. Et donc, vous avez beau construire des éoliennes, ça ne changera rien du tout. Le pétrole et le gaz vont rester dominants dans le monde. La preuve, c'est que il y a maintenant 50 ans qu'on essaye de trouver des solutions alternatives, 52 ans cette année-ci, qu'on trouve des solutions alternatives, et le pétrole est toujours dominant. C'est toujours le roi des énergies, et ça continuera. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Ouais. Samuel Furfari, merci.
C'est difficile à comprendre. Hein. Ouais. J'admets que c'est difficile à comprendre. On bombarde toujours d'éoliennes ou de panneaux solaires. Vous savez, les éoliennes dans le monde et les panneaux solaires ensemble, ça fait 3% de la demande d'énergie. Hein. 3%. Hein. Donc voilà, il faut rester quand même les pieds sur terre.
Mmh. Samuel Furfari, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt.